Bonjour à tous. Bonne année à ceux à qui j'ai pas souhaité encore bonne année. Et merci Johan pour ces rappels, ces encouragements. Nous allons continuer avec ce thème de la relation avec Dieu. Alors il y a un diapo normalement. C'est dans la clé USB. Merci, Aïna. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça. Oula, il y a un bel écho. C'est bon? C'est mieux? Merci beaucoup. Il n'y a pas si longtemps que ça, le passage d'une année à l'autre était l'occasion de prendre des nouvelles résolutions. Faire plus de sport, manger mieux, mieux gérer son temps, mieux gérer son argent, etc. Et aujourd'hui, vous l'avez certainement remarqué, la tradition des nouvelles résolutions est en train de perdre en popularité. On n'en parle presque plus. Et c'est très caractéristique de notre époque. Une époque désenchantée, car on sait que ce genre de nouvelles résolutions ne dure que quelques jours, et ensuite on culpabilise. Une époque où l'on parle davantage de prendre soin de soi toute l'année plutôt que d'être performant. Le bien-être passe avant tout. On veut moins de charge mentale, moins d'engagement, moins de devoirs, moins d'injonctions culpabilisantes, moins de pression. Une époque où l'on remet en question les traditions, les cadres et les codes. Je trouve que notre époque est, dans un certain sens, plus authentique, plus réaliste et plus naturelle. Et en même temps, une société a besoin d'un minimum de traditions, de cadres et de codes, car ce sont des repères utiles aux relations et au vivre ensemble. Alors, je donne quelques exemples. En France, lorsque nous invitons quelqu'un à la maison et lorsqu'on lui dit « viens à midi », eh bien, c'est sous-entendu qu'on l'invite à manger pour le déjeuner. On ne l'invite pas pour prendre le goûter seulement. Parce que selon nos codes et nos habitudes, midi est l'heure du repas. Et lors d'un repas, on propose à la fin généralement un dessert. Cela fait partie des habitudes. Un autre exemple, généralement, quand on rencontre une connaissance, que ce soit à l'église ou dans la rue, on se dit « bonjour ». C'est un code, qu'on le veuille ou non. Et quand on oublie de dire « bonjour » ou quand on ne le fait pas, eh bien la personne, l'autre personne peut mal le vivre et se demander « est-ce qu'il me rejette ou est-ce qu'il est fâché après moi ?» Ce sont des questions que les gens se posent généralement. Peut-être que ce n'est pas du tout le cas, peut-être qu'on n'a juste pas dit bonjour parce qu'on ne voulait pas. Mais le manquement à ce code relationnel suscite des réactions, parce que c'est un code. Je prends un dernier exemple, qui concerne par exemple nos cultes. La louange chantée, je parle de la louange chantée parce qu'il y a des cultes où la louange est juste parlée. Mais la louange chantée, chez nous, fait partie de nos traditions. Si pendant un culte, on ne propose aucun chant, je pense que beaucoup se sentiraient frustrés, surtout pendant la première demi-heure de culte. En tout cas, la grande majorité des habitués attendraient le moment où le président de culte propose les chants. Les traditions, les habitudes et les codes sont utiles pour avoir des repères dans nos rencontres et nos relations. Mais les cadres ne doivent pas prendre le dessus sur le naturel et sur l'authenticité. Et c'est à ça que nous devons faire attention. La foi chrétienne ne se vit pas à travers des traditions, mais elle se vit dans une relation vivante avec Jésus. C'est ce que je vous propose de voir avec le texte que nous allons lire, où Jésus bouscule un peu notre conception de la foi. Avec Jésus, la foi ne commence pas par une résolution, ni par le respect d'un cadre, mais par une rencontre qui nous transforme jour après jour. Je vous propose de lire Luc 17, versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Alors ce récit ressemble à une parabole, mais ce n'en est pas une. Une parabole est une histoire imaginaire racontée pour illustrer un enseignement. Ici, la guérison des 10 lépreux n'est pas présentée comme une parabole, mais bien comme un événement qui s'est réellement déroulé. Et comme souvent, Jésus saisit cette occasion pour apporter un enseignement. Ce récit nous donne un enseignement sur la foi. La foi du Samaritain est mise en avant car il sort du lot. Nous aurons l'occasion d'en parler. Mais les autres lépreux ont aussi quelque chose à nous apprendre. Commençons alors par le début. Premièrement, la foi est toujours mise en pratique. À l'époque de Jésus, un lépreux désignait quelqu'un qui avait une maladie de la peau. Cela pouvait être la lèpre, mais aussi d'autres affections de la peau. De manière générale, les maladies étaient considérées comme une malédiction. Et comme la maladie des lépreux était particulièrement visible, ils étaient considérés comme maudits, voire même punis par Dieu. On devait éviter d'entrer en contact avec des lépreux et vice-versa. Un lépreux devait se tenir à l'écart de la société. La lèpre était un signe d'impureté et même une image du péché. C'est pour cela que dans notre récit, les lépreux viennent à la rencontre de Jésus, mais il est précisé qu'ils se tiennent à distance. Ils disent à Jésus, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Autrement dit, ils lui demandent de les guérir. Jésus leur ordonne alors d'aller se montrer aux prêtres, ce qui est assez surprenant, parce que contrairement à d'autres récits de guérison, ici, Jésus ne prononce pas de paroles de guérison et il ne touche pas les malades. Alors que dans d'autres textes, il touche même les gens considérés comme impurs, ça ne lui pose pas de problème. Mais ici, il ne guérit pas, il les envoie aller voir le prêtre. Pourquoi leur demande-t-il de se montrer au prêtre ? C'est parce que dans la loi de Moïse, lorsqu'un lépreux était guéri, il devait aller se montrer au prêtre pour que celui-ci confirme la guérison. Et une fois la guérison authentifiée, la personne guérie pouvait de nouveau être déclarée pure, elle pouvait de nouveau être intégrée, réintégrée à la société et côtoyer d'autres personnes sans avoir à se mettre à l'écart. Les 10 lépreux ne sont pas encore guéris, mais Jésus leur ordonne d'aller voir le prêtre comme si ils étaient déjà guéris. Jésus fait donc appel à leur foi. Par la foi, ils doivent aller voir le prêtre pour authentifier leur guérison avant même que la guérison ait lieu. Dans un autre passage de la Bible, il est dit que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. On peut même traduire la foi est la ferme assurance des choses que l'on attend. Le texte raconte cette guérison de manière assez sobre au verset 14. Pendant qu'ils s'y rendaient, Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Évidemment, on ne peut pas connaître leur état d'esprit. Est-ce qu'ils sont partis à la rencontre du prêtre avec la ferme assurance de leur guérison à venir? Ou sont-ils partis avec un doute? Peut-être même que certains étaient convaincus et d'autres l'étaient un peu moins, mais l'effet de groupe les a tous mis en mouvement. Nous ne le savons pas, mais nous savons qu'ils sont quand même tous partis. Ils ont été tous guéris en chemin. Il y a donc quand même eu, de la part de tous, un acte de foi. Un acte de foi à la fois individuel et à la fois communautaire. Et le fait d'avoir été en marche ensemble a peut-être aidé ceux qui doutaient peut-être. Ils sont de toute façon partis voir le prêtre. Par cette guérison un peu particulière, Jésus veut nous apprendre que la foi est toujours mise en pratique. Ici, la foi des lépreux s'est manifestée par leur mise en marche vers le prêtre. La foi n'est pas une croyance théorique, ce n'est pas une croyance en Dieu en tant que concept. La foi n'est pas une simple adhésion à une confession de foi. La foi, c'est la confiance en Dieu qui se manifeste jour après jour. C'est croire que Jésus est avec nous, nous pouvons compter sur lui dans notre quotidien. Nous pouvons ne pas nous inquiéter outre mesure pour l'avenir, puisque Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, comme le dit l'apôtre Paul. Alors il ne faut pas confondre bien et bien-être. Souvent, en tant que chrétien, mais souvent de manière générale, on confond bien et bien-être. Le bien dont il est question, chez l'apôtre Paul, ce n'est pas forcément le bien-être ou l'absence d'épreuves, mais c'est le bien pour notre foi, le bien pour notre relation avec Dieu, le bien pour notre sanctification. Les 10 lépreux ont traduit leur foi en action. Comment nous mettons notre foi en pratique jour après jour? C'est une question que je veux laisser largement ouverte, et en même temps, il y a un exemple bien concret avec l'un des 10 lépreux. C'est mon deuxième point. Deuxièmement, la foi est reconnaissante. Je relis les versets 15 et 16. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Le texte nous décrit à quel point il manifeste sa reconnaissance. Il revient sur ses pas, il rend gloire à Dieu à haute voix, c'est précisé, il se prosterne devant Jésus et il le remercie. La joie de cet homme guéri le pousse à exprimer sa reconnaissance de manière spontanée. Ce n'est pas réfléchi, c'est naturel et c'est sincère. Et Jésus félicite ce Samaritain qui est revenu pour dire merci à Dieu. Avons-nous une foi et une joie qui nous poussent à exprimer notre reconnaissance de manière spontanée, naturelle et sincère? Sommes-nous conscients de tout ce que Dieu nous offre jour après jour? Sa grâce, son amour, son pardon, son esprit, sa présence dans notre vie, sans compter tous les autres biens qu'il nous offre. Ce monde souffre et nous ne sommes pas épargnés par les épreuves ou la maladie. Mais nous croyons que Jésus change notre vie pour la rendre meilleure. Nous croyons qu'il prend soin de nous, que le salut n'est pas juste une théorie, mais que ce salut est bien réel. Nous avons déjà des bénédictions présentes et il y a aussi les bénédictions à venir. Nous sommes appelés à déjà nous réjouir par avance des bénédictions à venir. Par exemple, la nouvelle terre, ce qu'on appelle le paradis, même si nous ne le voyons pas encore. Tout comme les lépreux, étaient appelés à prendre le chemin pour se montrer au prêtre avant la guérison. Notre nature humaine a tendance à considérer comme acquise, comme normale et même comme banale les bénédictions de Dieu. Et nous nous focalisons souvent, trop souvent, sur ce que nous n'avons pas ou ce qui ne va pas. Malheureusement, la reconnaissance n'est pas naturelle. et c'est bien de s'en souvenir. La reconnaissance n'est pas naturelle. Nous passons, en tant que parents, en tout cas je passe, en tant que parent, mes journées, et je dis bien mes journées, du matin au soir, à apprendre aux enfants à dire merci. Et je pense que nous, adultes, nous avons encore beaucoup à apprendre également à ce niveau. Et même lorsque nous savons dire merci, notre reconnaissance a tendance à être éphémère et à devenir timide. Nous sommes reconnaissants surtout au début, lors de la découverte, découverte de Jésus, découverte de l'Église, découverte de la Bible. Et une fois la découverte passée, nous avons plus de mal à être émerveillés. Et je pense que c'est la même chose dans nos relations, ainsi que dans la vie d'Église. C'est une grâce de pouvoir vivre notre foi ensemble, dans la liberté, avec la possibilité de s'encourager, de s'édifier. Normalement, l'Église est aussi un lieu où l'on a le droit de faire des erreurs sans être jugé, un lieu où l'on peut apprendre de nos erreurs et ensuite faire mieux. Ensemble, nous apprenons la patience, nous apprenons à dépasser les différences, à nous comprendre, à nous pardonner, à nous écouter. Alors je ne dis pas que nous savons bien le faire, je dis que c'est un apprentissage quotidien. C'est entre autres pour cela que nous sommes appelés à former l'Église. C'est un sujet de grâce et de reconnaissance. L'exemple de ce lépreux samaritain et l'éloge que Jésus lui fait nous invite à dire davantage merci à Dieu. Pas seulement à le dire, mais à le penser et à nous réjouir sincèrement des miracles quotidiens. Enfin, le samaritain guéri a encore autre chose à nous apprendre à propos de la foi. Troisièmement, la foi est une relation vivante. Johan a déjà parlé de cette relation vivante ce matin, et ce samaritain a aussi et encore quelque chose à nous apprendre. Jésus fait l'éloge de la foi de ce samaritain. Et pourtant, si l'on y réfléchit bien, sa démarche est un peu dérangeante. Mettons-nous un instant à la place de ce groupe de lépreux, les 9 autres qui ne sont pas retournés voir Jésus. Alors, ils sont tout un groupe. Jésus leur demande d'aller voir le prêtre. En tant que bons croyants, si nous avons foi en Jésus et si nous voulons respecter l'instruction de Jésus, alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, naturellement, nous obéissons. Nous voilà donc en route par obéissance à Jésus pour aller voir le prêtre. Mais sur la route, l'un de nos compagnons, voyant qu'il est guéri, s'arrête et retourne en arrière. N'est-ce pas de l'irrespect vis-à-vis de l'ordre de Jésus? Jésus a bien dit d'aller voir le prêtre, et celui-là, sous prétexte qu'il est guéri, s'arrête en chemin et prend une autre direction. Alors on pourra toujours dire qu'il est retourné remercier Jésus avec l'intention d'aller voir le prêtre plus tard, et c'est très possible. Mais à ce moment-là, le Samaritain a interrompu l'acte rituel, il est sorti du cadre prescrit par la loi de Moïse, et pour un croyant habitué à respecter un maître juif, cela ne se fait pas. Et les 9 autres ont dû se dire, mais ça ne se fait pas. En plus, c'est un étranger, alors il aurait dû suivre jusqu'au bout cette instruction de Jésus. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Et pourtant, Jésus prend cet homme comme un exemple de foi. Pour un bon croyant juif, il a pu paraître irrespectueux et désobéissant, mais pour Jésus, il est un exemple. Parce que sa relation à Dieu n'est pas une simple relation rituelle, c'est une relation vivante. En voyant l'homme revenir, Jésus aurait pu lui faire un reproche, il aurait pu lui demander « Pourquoi es-tu revenu en arrière? Je t'ai dit d'aller voir le prêtre. » Mais Jésus a perçu en lui une foi vivante et sincère. Et c'est cela qui compte avant tout. Avant tout. Une foi spontanée, vivante et authentique. C'est cela que Dieu attend de nous. C'est cela qui plaît à Dieu avant tout, avant les rites, avant les codes, les traditions et même les cadres. Comme je l'ai dit en introduction, les traditions et les cadres sont bien des repères utiles. Dieu a donné des guides pour notre vie chrétienne. Mais ce n'est pas cela qu'il regarde avant tout. La foi vivante que le Christ attend de nous n'est pas un attachement à un rite ou une doctrine, mais un attachement à sa personne. Mieux vaut une foi spontanée et vivante, quitte à sortir un peu du cadre prévu, qu'une foi réduite à une stricte observance de rites et de croyances. J'ai parfois l'impression qu'en tant que protestant évangélique, attaché à la bonne doctrine, à la bonne confession de foi, à la bonne éthique biblique, nous avons un peu de mal à accepter, à concevoir qu'une belle relation avec Jésus puisse se vivre parfois un peu hors cadre. Nous avons parfois du mal à accepter des personnes qui ne prient pas comme nous, qui ne chantent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes codes que nous. Nous avons du mal à reconnaître que malgré les différences doctrinales, des personnes puissent avoir un vrai attachement à Jésus et même une foi plus vivante que la nôtre. Dans notre texte, Jésus insiste bien sur le fait que le lépreux reconnaissant soit un étranger, un païen, un non-juif. Verset 17, Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » C'est probablement parce que cet étranger était moins familier avec les rites qu'il a pu peut-être faire un petit écart. Il se sentait même peut-être moins légitime pour bénéficier d'un miracle, ce qui explique sa plus grande reconnaissance. Si nous considérons que tout nous est dû, alors nous serons plus malheureux que reconnaissants. Si nous considérons que tout nous est dû, nous serons plus malheureux que reconnaissants. Mais si nous estimons que tout est grâce, alors tout est sujet de reconnaissance et de joie. Alors pour conclure, à travers ce récit, Jésus nous invite à entretenir une vraie relation avec lui. Que notre foi soit toujours concrète avec une mise en pratique de notre confiance en Jésus. Que notre foi soit toujours reconnaissante et toujours vivante. Sachons remercier Dieu pour ce qu'il nous offre et sachons aussi remercier nos frères et sœurs pour ce qu'ils sont et ce qu'ils nous apportent. Soyons attachés à Dieu et à la communauté à laquelle il nous place, plus qu'aux codes, aux rites et aux apparences. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur parce que tu es venu sur cette terre, tu as apporté un enseignement souvent dérangeant, parce qu'il cassait les codes de l'époque, et je pense qu'il casse encore les codes d'aujourd'hui. Merci parce que tu vois avant tout notre cœur, notre attachement à ta personne. Aide-nous à avoir cette joie, cette foi joyeuse, et à l'exprimer. Aide-nous à tout voir comme une grâce venant de toi, à voir nos frères et sœurs comme des bénédictions, à voir l'Église comme une bénédiction, à voir tout ce que nous possédons, tout ce que tu nous offres jour après jour, nos amitiés, nos familles, à tout voir comme un don qui vient de toi. Ce n'est pas un dû, mais ce sont des grâces. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es pour nous, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras, et tout ce que tu nous offres aujourd'hui. Aide-nous à avoir cette joie toujours émerveillée de ce que tu fais pour nous, de ce que nous découvrons dans la Bible, de ce que nous découvrons chez nos frères et sœurs, de ce que nous pouvons recevoir des uns et des autres, de ce que nous pouvons recevoir de ta parole. Merci encore, et que notre reconnaissance devienne naturelle et débordante, et que nous puissions l'exprimer également, jour après jour. Amen. Je vous invite à poursuivre la réflexion autour de ce texte.